Nous allons retraverser la place de la Fontaine aux Lions, porte de Pantin à Paris, retourner au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, écouter l'un de ses professeurs de direction, François-Xavier Roth, qui est lui-même un ancien élève du CNSM, qui a fondé l'orchestre Les Siècles. Les voici dans la toute dernière pièce de Daphnis et Chloé de Ravel. La danse générale qui clôt la musique de ballet, Daphnis et Chloé de Ravel. L'orchestre Les Siècles sous la direction de François-Xavier Roth.
France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Et l'invité de Musique et moi ce matin sur France Musique est Christian de Porzamparc, l'architecte Christian de Porzamparc. Vous nous avez parlé du processus pour affiner l'acoustique de la salle des concerts de la Cité de la Musique. Quelle acoustique avez-vous recherchée au Conservatoire de Paris en face, dans le bâtiment qui a précédé d'ailleurs dans sa construction celle de la cité. Est-ce que vous avez réfléchi à ce qu'on pouvait entendre dans les couloirs du conservatoire ?
Oui. C'était important pour moi. J'ai visité pas mal de conservatoires. Les plus modernes à l'époque étaient très bien isolés, mais ça veut dire que chaque classe et chaque couloir était isolé et qu'on ne savait pas dans le bâtiment s'il y avait 4 personnes ou 400 à un moment donné. Et cette vie était absente. Par contre, le conservatoire de la rue de Madrid, il n'y avait pas une bonne acoustique, on entendait ce qui se passait, mais cela donnait une vie. On sentait la vie des étudiants un peu partout. Alors il fallait ni l'un ni l'autre. Et en fait, j'ai travaillé en subdivisant le nombre de classes qui est important. Il y a des classes de toutes sortes. Il y a des classes pour instruments solo, il y a des classes de musique de chambre, il y a des classes qui ont été dédiées à la musique baroque. Il y a des classes de chant, et il y a évidemment les cours de danse. Il y a beaucoup de particularités. Je les ai mis par groupe, comme dans une sorte de géographie particulière, parce qu'au fond, il y a beaucoup de tribus différentes dans la musique. Mais j'ai surtout relié les classes par 3 ou 4, avec un sas commun. Un sas, c'est un endroit où il y aura 2 portes, quelquefois 3, qui vont isoler, qui vont permettre que l'endroit où on fait de la musique soit parfaitement isolé du dehors. Eh bien, en ayant quelques classes autour d'un sas, on peut les avoir isolées parfaitement, être dans le silence de sa musique, de son travail pendant 1 heure, 2 heures, sortir de là. Et par contre, les rues, les couloirs, les escaliers, je ne les ai pas insonorisés, en estimant que c'était bien de sortir de son groupe de classe et d'entendre le son au loin, presque d'entendre la ville. En tout cas, ne pas être obligé d'avoir des fenêtres très petites pour l'isolation, avoir des grandes baies vitrées, la lumière qui pénètre et la vue vers le parc qui peut exister. Et ça a joué très bien. Quand j'ai raconté quelques 6 mois après le début de vie du conservatoire, on m'a demandé de faire une sorte de conférences pour expliquer comment on avait conçu le bâtiment. Et je racontais ça, cette histoire du fait que je souhaitais que les musiciens sortent de leur silence et que l'oreille décompresse, qu'on entende loin. Et il y a eu des applaudissements spontanés dans la salle à ce moment-là. C'était vraiment amusant parce que après ils m'ont dit, mais oui, c'est quelque chose qu'on ressent et ça nous a, on le ressent, mais on ne savait pas le nommer. Et quand vous l'avez dit, que vous avez cherché ça, tout d'un coup, ça a fait bing, on a applaudi par satisfaction d'avoir vécu, d'avoir cette même perception. Parce que le travail qu'on fait dans une école d'art, c'est bien sûr son travail personnel et son travail avec un professeur, mais c'est aussi la rencontre des autres étudiants et puis des professeurs, mais informel. Entre eux, ils vont faire une fête, ils vont monter un quatuor, ils vont peut-être... À ce moment de les études, ils ne sont pas concurrents, ils sont juste amis. Et ils découvrent des choses, ils s'encouragent, ils se cèdent mutuellement. Donc je sentais ça possible dans le conservatoire.
Vous nous avez parlé un tout petit peu plus tôt de recherche d'acoustique dans les salles. Et je crois qu'il y a une salle dans laquelle cette recherche aussi vous a plu. C'est la Philharmonie du Luxembourg. Je propose qu'on écoute la toute fin, l'Adagio sehr langsam de la 9e symphonie de Gustav Mahler. Ici, l'interprétation de l'Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam sous la direction de Bernard Haitink.
Thank you.
C'est l'adagio « Sehr langsam und nur zurückhaltend ». Donc, une fin très retenue de la 9e symphonie en ré majeur de Gustav Mahler. Ici, Bernard Haitink dirige l'orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, qui permet d'entendre les pianissimos de la symphonie de Mahler.
Voilà, je vous avais suggéré cette fin de la 9e, parce que j'ai ce souvenir d'un concert où
à la Philharmonie du Luxembourg, c'est ça ?
Cette fin était telle qu'on entendait le son et avec l'impression qu'on l'entendait à 100 mètres, puis à 200 mètres, puis à 600 mètres, puis à 1 km, puis à 3 km. On avait l'impression que le son s'éloignait indéfiniment. Les musiciens étaient de plus en plus loin. Et cette impression-là, les musiciens me l'ont dit après ce concert, m'ont dit, mais c'est la précision du son dans la salle qui fait cela. On peut jouer des pianissimos et surtout, pour nous, on s'entend tellement bien, si on fait une faute, tout le monde le sait dans l'orchestre, et on s'est énormément amélioré maintenant qu'on a cette salle très précise. Au point que les musiciens, en général, sont enchantés, et Riccardo Muti, que j'ai vu plusieurs fois là-bas, et puis je l'ai retrouvé à Tokyo quand on a eu tous les deux le Premium Imperiale, et il me dit, cette salle de Luxembourg, je rêve d'y retourner, il nous la faut à Milan, c'est la meilleure salle d'Europe. Alors évidemment, on est assez fiers, Chou et moi, d'entendre Chou Yaying, l'acousticien chinois avec qui j'ai fait toutes ces salles. On est évidemment heureux d'entendre ça. C'est une chose que je regrette à la Cidade da Musica qu'on a fait à Rio. Elle n'est pas utilisée comme il faudrait. Les politiques n'ont jamais fait venir l'Orchestre Symphonique du Brésil, qui devait être le siège de cette salle. Et du coup, ils ne l'utilisent pas dans toute sa qualité qu'elle pourrait former un orchestre de très haute qualité par sa qualité acoustique. Il ne faut pas seulement avoir des bons musiciens, il faut aussi avoir le bon instrument, c'est-à-dire une salle adaptée à une parfaite écoute.
On va revenir à votre passion pour le piano, pour clore cette émission, pour clore ce Musique et moi. Vous avez demandé à ce qu'on puisse écouter une interprétation d'une sonate de Joseph Haydn par Glenn Gould. Et je me demandais, on a passé en revue comme ça différents pianistes depuis le début de cette émission. Pour rappel, Martha Argerich, Vladimir Horowitz, Thelonious Monk. Nous voici donc à Glenn Gould. Pourquoi est-ce que, particulièrement dans Haydn ?
Je ne sais pas, il a ce jeu de la précision, de la clarté des silences entre les notes, je ne sais pas... Et ça doit correspondre. C'est comme une espèce d'autre façon d'écouter Haydn. Et elles deviennent fantastiques, ces sonates toutes simples. Elles sont très... Il y a une retenue. Et l'émotion n'est pas étalée comme elle sera avec les romantismes. On est encore dans une espèce d'élégance extrême. C'est des petites épures... géométriques ou algébriques, et en même temps elles sont profondément attachantes. Alors c'est drôle parce que c'est un disque que j'emmenais, quand on avait les disques et les petites choses, j'emmenais dans les voyages pour aller à New York ou à Rio, au moment où je construisais dans ces endroits-là, donc il y avait très de façon répétitive des voyages de 2-3 jours, et j'aimais bien avoir ces sonates là où j'arrivais, comme si c'était, quelle que soit la chambre d'hôtel, c'était mon habitat, ces sonates à ce moment-là.
C'est une enveloppe, c'est un repère ?
C'est une enveloppe, un repère, une atmosphère dans laquelle on se retrouve et on reprend le fil de ses pensées, je ne sais pas. Et puis Gould, là-dedans, il était parfait, je trouve. Sûrement d'autres pianistes les ont joués très bien et je n'ai pas fait une recherche exagérée de savoir d'en trouver d'autres, ce serait intéressant, je devrais le faire. Mais celles-là, elles sont très belles, je trouve.
Nous avons parlé de précision du son et d'espace entre les notes tout au long de cette émission, Christian de Porzempart, et je trouve que ces notions se retrouvent aussi dans le jeu de Glenn Gould dans cette 59e sonate en mi bémol majeur au Opus 16 de Haydn. Est-ce que la notion d'espace ou de vide, peut-être, je ne sais pas quel mot vous mettez sur ce jeu de Glenn Gould, et est-ce que on peut rapprocher ce jeu de l'espace, vous, que vous mettez dans vos œuvres architecturales?
Probablement, on peut le faire. Quand je parlais de l'espace, je parlais souvent, au début de mon travail, de ce qu'il y a existe entre les objets, entre les immeubles, et je parlais du vide. Je me dis, il faut arriver à bien concevoir le vide. Et les gens venaient me dire, mais je ne comprends pas ton mot vide, ça veut dire rien, c'est angoissant. Et après, j'ai découvert dans le Tao Te Ching, c'est à deux endroits là où Tzu parle du vide. Dans l'un des deux, il dit « Ma maison, ce n'est pas le toit, ce n'est pas le sol, ce n'est pas les murs, c'est le vide entre ces éléments parce que c'est là que j'habite. » Et alors, après, tout le monde venait me dire « Ah, ta citation de Lao Tzu, c'est parfait. » Alors là, j'ai compris. Et en fait, voilà, le Tao Te Ching, il ne fait pas une définition philosophique ou physique de ce que c'est que l'espace ou le vide, il en donne l'expérience. C'est là que j'habite. Il décrit les éléments, il dit c'est là que j'habite, et tout le monde peut se dire, ben oui, c'est mon expérience à moi aussi. Donc voilà, c'est cette...
Et on peut en faire l'expérience aussi en musique?
Eh bien, je pense que oui. Une musique, par ses fortissimo et ses rythmes, c'est un espace que l'on ressent comme un lieu où on se trouve pris dans un moment, et avec plaisir, ou pas. Donc c'est un peu comme ce lieu du vide. S'il n'y avait pas les intermèdes silencieux, il n'y aurait qu'un son continu et ce ne serait pas toujours facile d'en faire la musique. Enfin, il y a des instruments qui ont facilement un son continu et peuvent jouer uniquement sur la mélodie. Mais à un moment donné, le souffle s'arrête et il faut un redépart.
Merci beaucoup pour ce temps d'échange, Christian de Porzempart, autour de vos musiques de chevet. Et c'était très intéressant de vous entendre parler de vos recherches acoustiques dans les différentes salles que vous avez dessinées, particulièrement celle de la Cité de la Musique, mais aussi le bâtiment du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, dont vous avez signé l'architecture il y a 30 ans maintenant. Différentes émissions seront consacrées à ce lieu d'excellence musicale et de transmission qui fête donc les 30 ans de son installation Porte de Pantin. Ne manquez pas l'émission de ma consoeur Marina Chiche, éminente violoniste et ancienne élève du conservatoire. Ce sera cet après-midi à 14h. Et puis ce soir, le Carrefour de la création sera également consacré à cet anniversaire. Merci beaucoup à Philippe Thibault à la technique ce matin. Cyrielle Weber à la réalisation. Attachée de production, Marie Ferdinand. Très belle journée à l'écoute de France Musique et à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.